Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Adopté définitivement par l'Assemblée nationale la semaine dernière, le projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme devrait être validé formellement mercredi par les sénateurs, défendu par le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb. La loi doit marquer la sortie de l'état d'urgence prévu le 1er novembre en traduisant dans le droit commun un certain nombre de dispositions de cet état d'exception. Bonjour Denis Salas.
Bonjour.
Vous êtes magistrat, président de l'Association française pour l'histoire de la justice et vous êtes également directeur de la revue Cahiers de la justice. Ce projet de loi vous inquiète-t-il ?
Ce projet de loi est inquiétant dans la mesure où il se borne à transposer, en quelque sorte, dans notre droit commun, les principaux acquis de l'état d'urgence, avec, je dirais, en caractéristique, les changements de vocabulaire, simplement. Les mesures des zones de surveillance deviennent des zones de protection. Les assignations à résidence se transforment en mesures individuelles de contrôle et les perquisitions administratives deviennent des visites domiciliaires avec des modifications de détails sur les modalités. Donc on a vraiment une transposition tout à fait claire, malgré le changement de vocabulaire, de l'état d'urgence dans le droit commun.
Donc pour vous, c'est un travail lexical avant tout.
Il y a un travail lexical et il y a derrière cela, je dirais, une opinion publique particulièrement inquiète parce que effectivement l'état d'urgence est présenté à l'opinion publique comme un bouclier face au terrorisme.
Et alors pour vous, ça c'est quelque chose qu'il faut remettre en cause, Denis Salas ?
C'est-à-dire que la présentation qui est faite de l'état d'urgence, est en quelque sorte le meilleur moyen, le moyen le plus efficace de parvenir à éradiquer le terrorisme. Or, l'état d'urgence, c'est mon point de vue, n'est pas fait pour cela.
Pourquoi est-il fait ?
Il est fait pour, en quelque sorte, après un attentat qui a été commis, prendre des mesures immédiates de perquisition, d'enquête efficace, avec une latitude d'action donnée à la police et à la préfecture pour agir immédiatement dans l'efficacité avec une dérogation au droit commun.
Vous voulez dire, Denis Salas, qu'il doit être limité dans le temps ?
Limité dans le temps, c'est la loi. Hein, avec des prolongations successives sous contrôle du Parlement. Or là, effectivement, comme on l'a remarqué, plusieurs prolongations et l'état d'urgence est en vigueur depuis 2 ans. Une mesure d'urgence, une mesure exceptionnelle devient permanente d'autant plus qu'elle va entrer actuellement dans le droit commun.
Mais la situation n'est-elle pas exceptionnelle ? C'est-à-dire, on voit bien qu'il y a peu de semaines, hélas, sans nouveau cas d'attaque terroriste. Est-ce que par conséquent, il ne faut pas adopter des mesures qui vont nous permettre de vivre tant bien que mal avec cette menace ?
Mais nous avons déjà, dans notre arsenal pénal législatif, des mesures qui permettent de prévenir les attentats. Depuis 1996, nous avons ce qu'on appelle un droit préventif, non pas répressif, mais préventif. On anticipe la menace par le renseignement et par l'action pénale pour éviter que l'attentat se produise.
De quoi se compose-t-il ce droit ?
C'est essentiellement une incrimination très particulière qui s'appelle l'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, qui est une infraction de prévention de l'attentat. C'est-à-dire qu'avant même que l'attentat ne se commette, le droit pénal classique, le droit commun, permet d'anticiper et d'arrêter les malfaiteurs et de les déférer à la justice. Donc vous avez déjà ce dispositif d'anticipation dans notre droit lui-même.
La question, en fait, consiste à savoir si cette loi de sécurité intérieure, elle va suspendre, comme certains le disent, purement et simplement l'état de droit, ou bien si elle répond à une demande sociale qui est quand même une demande sociale forte, puisque on entend que beaucoup de gens, pour ne pas dire la grande majorité des citoyens, veulent aujourd'hui une protection forte contre le terrorisme.
C'est une demande d'autant plus forte qu'elle touche le fondement même du pacte social. Le terrorisme nous place périodiquement devant la peur de la mort violente. C'est un peu le monde qu'avait décrit Hobbes en son temps. Nous sommes confrontés à cette peur de la mort violente et par conséquent nous déléguons implicitement à l'État une protection que l'on espère effectivement la plus complète possible, en renonçant à tout ou partie de nos droits et en lui promettant obéissance. Donc ce pacte, en quelque sorte, de sécurité est le fondement anthropologique de la demande actuellement de sécurité de nos concitoyens. Elle se constitue dans une, en quelque sorte, dans une demande de sécurité qui est potentiellement illimitée parce que précisément le terrorisme est un facteur permanent qui sévit dans nos sociétés.
Bon, bah alors si vous posez ces prémices dans ce cas-là, elle est parfaitement légitime.
Elle est légitime, mais nous sommes outillés pour faire face à cette menace. C'est ce que je viens de vous dire. Et nous n'avons pas attendu, effectivement, l'état d'urgence pour y faire face, puisque depuis plusieurs années, cet outil préventif de l'état pénal est prévu actuellement. Donc c'est là où, effectivement, la demande est forte, parce que nous sommes potentiellement des cibles, tous, les uns et les autres. On a vu les attentats de Marseille, on a vu les attentats à Barcelone, et cette insécurité généralisée produit en quelque sorte une demande de sécurité la plus complète possible qui va être adressée à l'État, qui va mettre en chantier en permanence des réformes législatives pour répondre à une demande de sécurité potentiellement illimitée, parce que le désir de justice et de police est seul en quelque sorte capable, apte à répondre à cette demande.
Alors justement, puisque vous en parlez, la question qui est posée de Denis Salas, c'est l'efficacité, puisque aujourd'hui on veut une justice efficace, on veut une police efficace contre le terrorisme, ce qui veut dire que à chaque nouvel attentat, on se rend compte qu'il y a eu des failles qui ont permis cet attentat et il y a une demande sociale assez vaste pour que le projet de loi, pour que la loi empêche ces failles. Est-ce que ça n'est pas finalement quelque chose de parfaitement compréhensible? Alors vous dites, l'arsenal législatif le comprend déjà, mais s'il le comprend déjà, alors pourquoi ne parvient-il pas à arrêter ces nouvelles attaques? C'est une question un peu candide.
Mais on a fait le bilan de l'état d'urgence. On l'a fait à plusieurs reprises. L'ancien garde des Sceaux, Jean-Jacques Voice, l'a lui-même élaboré en son temps. Aujourd'hui, les commissions d'enquête parlementaires l'ont fait. On sait que l'état d'urgence n'a qu'une efficacité très limitée en termes de protection devant le terrorisme. Très peu de perquisitions ont abouti à des instructions pour des faits de terrorisme. Les mesures d'assignation à résidence ont également eu un impact très très limité.
Pourquoi? Donc, si vous voulez, pourquoi? Parce que
c'est un constat statistique, tout simplement.
Pardonnez-moi, parce qu'il y a deux mesures qui peuvent passer pour être frappé au coin du bon sens. Tout d'abord, bon, les perquisitions. Alors maintenant, elles vont devenir des visites domiciliaires, mais là, on comprend que ces personnes suspectées soient visitées pour que l'on voit un peu si elles ne cachent pas des armes chez elles, si et il n'y a pas donc matière à trouver des preuves ou une absence de preuves de leur projet possible d'attentat dans le futur.
Oui, mais il y a eu un nombre de perquisitions absolument très important, 4300 perquisitions pour une trentaine d'ouvertures d'informations pour terrorisme. Le problème, si vous voulez, c'est là où on peut avoir une discussion approfondie, c'est que l'anticipation de l'acte repose sur une notion de dangerosité, de raison, dit le texte, plausible, permettant de penser que cette personne prépare des attentats terroristes. Donc vous êtes dans une supposition, dans une hypothèse de dangerosité qui fait que, en pratique, si vous voulez, ces mesures d'assignation à résidence ou de perquisition touchent des personnes qui sont totalement étrangères à un acte terroriste. Et on a vu, effectivement,
qui peuvent être totalement étrangères.
Oui, mais les évaluations qui ont été faites montrent, si vous voulez, que, de fait, beaucoup de ces personnes-là, pour une grande partie, sont des manifestants, sont des personnes qui manifestaient pendant la COP21, sont des étrangers en situation irrégulière qui n'ont strictement rien à voir avec la préparation d'un attentat terroriste. Donc vous êtes là devant une hypothèse policière qui est présentée au juge administratif à l'époque où il pouvait le contrôler. Aujourd'hui, ce sera le juge de la liberté pour les perquisitions administratives. Et qui va être confronté à quoi ? Qui va être confronté à une hypothèse de dangerosité terroriste fondée sur les fameuses notes blanches, des notes non datées, non signées.
Mais vous en avez extrêmement lu.
C'est très simple. On indique au magistrat que telle personne est dans une mouvance salafiste radicale. Oui, mais Prouvez-le, déterminez en quoi cette personne
est. C'est-à-dire que généralement, ces notes blanches, elles peuvent se tromper, ou alors elles peuvent incriminer, parce qu'on peut très bien être un salafiste radical et ne jamais vouloir commettre d'attentat.
Alors, par exemple,
quelle est l'hypothèse que vous retenez de Denis Salas?
L'hypothèse que, alors, le problème, c'est que quand vous présentez ce type de notes aux magistrats, hier administratif, demain judiciaire, on va dire c'est très bien, mais nous savons cette individu est dangereux, qui prépare des attentats. Le juge ne va pas prendre de risque. De fait, il va ordonner la perquisition pour permettre effectivement d'identifier la personne. Donc, si vous voulez, mais il ne pourra pas, si vous voulez, investiguer suffisamment pour démontrer qu'il y a effectivement une réalité derrière cette hypothèse de dangerosité.
Diriez-vous, Denis Salas, que l'on a grossi le péril terroriste? Ce que je veux dire par là, c'est que ce péril ne justifie pas que l'on suspende les libertés républicaines. Est-ce que c'est par exemple un discours comme celui-là que vous pourriez soutenir?
Ce péril permet de suspendre les libertés républicaines quand, dans l'instant, dans l'urgence de l'attentat, il faut prendre des mesures immédiates et agir efficacement dans ce but-là. C'est ce que prévoyait la loi de 55 sous l'état d'urgence qui avait été adoptée pendant la guerre d'Algérie. Il peut avoir une prolongation d'un mois, c'était prévu à l'époque, mais une prolongation en quelque sorte indéterminée place l'état d'urgence dans une situation de pérennité. Or, le terrorisme étant un danger permanent, il faut que nous puissions penser qu'effectivement, une législation permanente seule peut organiser la défense de la société, et non pas une législation transitoire.
Oui, mais encore une fois, Denis Salas, est-ce que vous pensez que, par rapport au terrorisme, il ne faut pas surréagir? Il y a des intellectuels, des chercheurs qui le pensent. Par exemple, Yuval Noah Harari dit que face au terrorisme, on est face à l'éléphant dans le magasin de porcelaine qui est agacé par une mouche. La mouche, c'est le terrorisme, l'éléphant, c'est nous, et si on surréagit, on va casser le magasin de porcelaine, le magasin de porcelaine étant évidemment la métaphore de nos libertés individuelles. Est-ce que c'est ça qui est aujourd'hui en cause, puisque on a entendu dire, notamment à gauche, que parmi les fichés S, il y avait des manifestants écologistes, qu'il y avait un certain nombre de personnes qui avaient toutes sortes de buts, sauf des buts terroristes.
Oui, mais si vous voulez, il faut aussi avoir une vision équilibrée, une vision nuancée du coût pour notre sécurité et du coût pour nos libertés. Il faut avoir une évaluation quand même là intelligente. Quand je vois les débats parlementaires qui ont eu lieu, ils vont un peu dans ce sens-là. On voit les Républicains qui proposent des gardes à vue de 30 jours. On voit des Républicains qui proposent d'interner tous les fichiers S et 12 000 personnes. Ça n'a pas de sens, si vous voulez. C'est atterrant d'entendre des propositions de cette
Pourquoi
nature-là. Parce que c'est totalement démesuré par rapport à la réalité de notre législation.
C'est démesuré ou c'est inefficace?
C'est démesuré et inefficace. Démesuré parce que l'atteinte aux libertés est totalement hors de proportion par rapport aux moyens qui sont les nôtres actuellement et par rapport aux acquis démocratiques que nous devons garantir. Parce que précisément, le terrorisme vise à nous faire sortir de ce cadre démocratique et de l'état de droit. Or, le danger que proposent ces parlementaires, c'est précisément d'en sortir pour nous défendre. C'est une erreur majeure.
Et puis, il y a des questions donc, qui, là, se posent pour tous les citoyens, donc pas seulement pour les fichés S ou ceux qui sont aujourd'hui sous le coup d'un certain nombre d'interdictions administratives, c'est par exemple le fichier des passagers aériens. Est-ce que l'existence de ce fichier, le fait que ces fichiers vont probablement se multiplier pour la totalité des individus, est-ce que ça, c'est quelque chose qui devrait normalement nous faire réagir, Denis Salas, vous qui êtes magistrat?
Oui, il y a déjà des mesures de contrôle des voyages, des passagers aériens qui sont substantiels. Le PNR en fait partie.
Mais vous y êtes favorable ou pas?
Moi, je pense qu'il faut surveiller. On a eu des attentats majeurs qui ont été catastrophiques pour notre sécurité. Il faut surveiller les voyages de cette nature. Et d'ores et déjà, les États-Unis ont mis en place ces mesures-là et l'Europe va y venir. Donc je pense qu'il faut effectivement là avoir des précautions nécessaires compte tenu des précédents malheureusement très lourds qui se sont produits dans ce domaine-là.
Denis Salas, aujourd'hui, la sécurité, c'est de la politique. On l'a vu d'ailleurs hier lors de l'intervention d'Emmanuel Macron, savoir quand est-ce qu'il fallait que les journalistes l'interrogent sur les questions de terrorisme. Certains considéraient qu'il fallait accorder beaucoup plus de place à cette question-là. Et donc, vous qui êtes magistrat, donc censé a priori être un technicien du droit, vous allez devoir trancher des questions politiques. Est-ce que finalement, il va pas falloir vous habituer à ce que l'on fasse une utilisation politique de l'arsenal répressif contre le terrorisme ou de l'antiterrorisme?
Non, je ne m'y habituerai pas. Je ne m'y habituerai pas pour une raison bien simple, c'est que, si vous voulez, et c'est une caractéristique française, il faut que les juristes, enfin ceux qui défendent les valeurs de l'état de droit, tiennent leur place dans notre société. Beaucoup le font actuellement. Le problème, c'est que les politiques ont une vision très, je dirais, opportuniste.
Très politique.
Oui, mais en même temps...
Parce qu'eux aussi tiennent leur place.
C'est le cas en France, en particulier. C'est pas le cas en Allemagne, où l'état de droit est très, très puissant, ou dans d'autres pays européens, si vous voulez, où le droit n'est pas un risque à éviter, comme on le voit aujourd'hui en France quand on évoque le contrôle du Conseil constitutionnel, mais une valeur à respecter. Donc je pense qu'il faut là aussi rappeler que le droit n'est pas un empêcheur de tourner en rond, en quelque sorte, ou de faire des répressions, mais un contrôle nécessaire pour que dans la répression, les cadres démocratiques soient maintenus.
Mais alors là, justement, je m'en voudrais quand même de faire mon autocritique, ou en tout cas celle des journalistes, mais est-ce que les politiques et les magistrats sont les seuls en cause? Vous parlez de l'Allemagne. C'est vrai que Angela Merkel a beaucoup moins réagi face au terrorisme que François Hollande n'a réagi. C'est peut-être aussi lié à un climat. Est-ce que les médias ont leur part, par exemple?
Les médias doivent jouer leur rôle de contrôle.
Mais jouent-ils ce rôle aujourd'hui dans les deux sens? Parce qu'il y a à la fois un rôle de contrôle et puis un rôle...
De répercussion du débat. Oui, je pense qu'ils le font. Enfin, une partie de la presse, comme toujours, pas. Mais ils le font. Mais je pense que ce qui est très difficile, c'est que notre culture politique n'est pas une culture qui de manière extrêmement aisée, en quelque sorte, intègre la dimension du droit dans l'action politique elle-même, et elle voit plutôt le droit comme un obstacle à contourner, plutôt que... Il y a un exemple très, très intéressant, qui est le délit de consultation des sites djihadistes, qui a été supprimé pour un conseiller par le Conseil constitutionnel, et qui a été rétabli immédiatement par le Parlement, au motif qu'il fallait contourner cette décision du Conseil constitutionnel pour éviter une répression efficace dans ce domaine-là. On voit bien là, si vous voulez, dans le débat parlementaire lui-même, à quel point le droit doit être est un obstacle, finalement, qu'il faut absolument éviter, contourner et, en quelque sorte, s'en passer pour être efficace.
Denis Salas, vous êtes magistrat. On vous retrouve aux environs de 8h20. On va évoquer le procès Mera, le procès du frère du terroriste qui est actuellement en cours. On va évoquer également ce qu'a dit Emmanuel Macron hier au sujet des étrangers en situation irrégulière sur le territoire. En attendant, il est 8h.